Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bonne matinée, bon réveil à vous, les grandes gueules du sport. C'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Beaucoup de choses à voir avec vous et évidemment vous participez au 32-16. Au sommaire aujourd'hui, dans quelques instants, l'OM qui reprend sa marche en avant. Victoire 3-1 à Lens. Hier, une séquence qui a beaucoup fait parler, une séquence qui change tout. En quelques secondes, la rencontre est passée de 2-2 à 3-1 avec le VAR. L'occasion pour nous de débattre justement sur cette assistance technologique. À 10h, naissance jour de Kylian Mbappé à Madrid lors d'un premier bilan. Le capitaine des Bleus s'est-il trompé de destination cet été? Reportage en Espagne, ce sera notre bras de fer. Et puis 11h, le 15 de France après cette tournée d'automne magnifique, plus que jamais tournée ce 15 de France vers la prochaine Coupe du Monde. L'obsession 2027 est-elle une erreur? Nous nous poserons la question donc un petit peu plus tard dans cette émission. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente, une grande gueule qui, comme Max Verstappen, cette année, il a un peu plus perdu que d'habitude, Cyril Linet. Salut Cyril.
Salut.
Le micro. Oui.
Salut Jean-Christophe, pardon, j'ai perdu qu'une seule fois.
Exactement,
mais largement.
Alors que Max Verstappen, beaucoup plus.
Merci de me le rappeler.
Tu as bien raison, mon cher Cyril. Une grande gueule qui, comme Max Verstappen, sans son moteur dans sa machine, il ne serait rien. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Salut JC, c'est pas mal. Mais après, je suis pas le seul à avoir utilisé ça. Hein.
Exactement.
Actuellement, j'ai le droit, moi. Certains n'ont pas le droit, ils l'utilisent quand même.
Voilà. Tu as des noms à nous donner?
Eh ben, j'en donnerai au cours de l'émission.
Très bien. Attention
c'est le grand moment.
Attention à la diffamation. Hein, je voudrais pas qu'il t'arrive des problèmes, évidemment. Tout va bien, Jérôme?
Ça va super bien.
Ouais, très heureux de te retrouver. Jérôme, Cyril, ça fait longtemps hein, que l'on s'est pas vu dans les grandes gueules du sport. Quoi, 3 semaines?
Ouais.
Ça me paraît long, sans voir quand même.
Ça va pas si longtemps que ça, mais c'est bien parce qu'on se manque. Ça
surtout, bon,
on
prendra un taquet d'entrée.
Ouais, tu vois.
On est content.
Mais Cyril va pas finir par plus revenir.
Chaque fois.
Non, j'ai dit 2 max sur les élections et après je serai hyper sympa.
Ah,
voilà, ce sera la dernière.
C'était la deuxième.
Comme mon nombre de votants.
Si tu vas tout seul aussi.
Oui.
Une grande gueule qui, comme Max Verstappen, il en a remporté lui aussi des titres inoubliables. Par exemple, champion de division d'honneur régionale avec le FC Gaillac. Ah, c'est beau. Hein. Pascal Duprat, salut Pascal.
Gaillard. Merci
ouais.
Jean-Christophe. Moi, je pensais que t'allais plus me tailler ce matin. Donc, ce n'est pas trop mal ce que tu dis. Merci beaucoup.
Bah oui, je peux pas le faire à chaque fois quand même, Pascal.
Salut,
à toi.
Oui, salut les GG. Content de vous retrouver. Un programme chargé. Ça va, à mon avis, fighter entre certains d'entre nous.
Exactement.
À tout de suite.
Comme d'habitude, il est prêt au combat, Pascal Duprat. Et puis une grande gueule qui, comme Max Verstappen, ça lui est déjà arrivé de perdre au premier tour. Bon, elle un peu plus souvent hein, que Max Verstappen. Sarah Pitkovski, salut
Bonjour
Sarah.
À tous. Oui, plutôt souvent, puisqu'au tennis, quasiment une fois par semaine. Hein.
Voilà.
Si tu joues toutes les semaines.
Ouais, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, hein.
T'es oui, pas obligé de perdre ouais. à chaque fois au premier tour.
Non,
ah ouais, j'avais pas senti cette excuse là, c'est vrai.
Non,
le foot aussi, on joue deux fois par semaine des fois.
Oui, mais tu peux sortir en match nul. Au tennis,
Ah,
si tu gagnes pas tu gagnes pas la finale. Moi, je dis toujours quand des parents viennent me voir pour dire, mais le tennis, il va falloir apprendre à perdre parce que vous perdez une fois par semaine.
Faut pas qu'ils viennent au vélo alors, hein, parce que c'est encore pire. Hein.
Oui, c'est exactement.
Voilà.
C'est non, mais
il y a que Pascal qui a droit au match nul en fait au final.
Ouais, c'est ça.
Parlons
ouais.
de cela,
mais nul, tu veux dire nul le score
nul,
un peu des deux
la production.
Parfois c'est les deux. C'est souvent les deux d'ailleurs.
Allez tout de suite mes GG Max puissance 4. Et oui, pour débuter cette émission, nous allons prendre la direction de Las Vegas. Max Verstappen vient de remporter le titre de champion du monde de Formule 1. C'était tôt ce matin, le quatrième de sa carrière, le quatrième de suite dans les livres d'histoire. Le pilote néerlandais rejoint Alain Prost et Sébastien Vettel en direct des États-Unis d'Amérique, comme on dit. Notre commentateur Jean-Luc Roy. Bonjour Jean-Luc.
Oui, salut JC, bonjour à tous.
Ouais, c'est encore une performance colossale hein, de Max Verstappen. C'était sous tes yeux ce matin, donc à Las Vegas.
Ah oui, il a fait le boulot, hein. Il partait cinquième, vraiment, pour se qualifier déjà, elle manquait manifestement de vitesse de pointe, cette Red Bull. Donc, il savait que ça allait être difficile. Il a pris un départ formidable et ensuite, les premiers tours se sont bien déroulés puisqu'il s'est même retrouvé deuxième à un moment dans les roues de George Russell, le vainqueur du jour. On va quand même citer son nom parce que ça n'est que la troisième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. La deuxième de la saison pour le Britannique de chez Mercedes. Il est rejoint sur le podium par Hamilton, qui a fait une belle remontée, partie dixième. Mais évidemment, tous les yeux étaient tournés vers le duel hein, entre Verstappen, qui partait donc cinquième, et Lando Norris, avec sa McLaren, qui partait sixième. Et puis, on a compris tout de suite que Norris n'avait pas le rythme, puisque, je l'ai dit, Verstappen est remonté au deuxième rang. Alors après, il a été passé notamment par Hamilton et aussi par les deux Ferrari de Sainz et de Leclerc, qu'il avait un moment devancé. Ça lui faisait un matelas derrière avant le retour de Norris. Mais Norris n'a rien pu faire. On l'a même arrêté d'ailleurs à deux tours de l'arrivée pour lui chausser des pneumatiques soft les plus tendres pour qu'il décroche le meilleur tour en course, synonyme d'un point supplémentaire. Parce qu'évidemment, si le titre est perdu pour Lando Norris, là il totalise maintenant 340 points, il n'en a pris que 9, alors que Verstappen en a pris 10 et lui il en totalise 403, donc 63 points d'écart. Il en fallait moins de 60 pour qu'il ait une chance éventuellement de combler ce retard sur les deux derniers Grands Prix, le Qatar dès la semaine prochaine et Abu Dhabi la semaine suivante. Mais attention, parce que Norris, il n'est même pas assuré de terminer vice-champion du monde. Derrière, Charles Leclerc a pris lui 12 points, et donc je répète, Norris en a pris 9. Donc il n'y a plus que 21 points d'écart entre Norris deuxième et Leclerc troisième. Donc la bataille n'est pas terminée. Et puis je dirais que la plus serrée, bien sûr, c'est pour le titre constructeur. Et c'est là synonyme de gros dollars. Hein. Si McLaren est toujours devant avec 608 points, eh bien la Scuderia Ferrari a refait une belle partie de son retard. Elle est à 24 points avec 584 points total.
C'est donc, bon, hein. il entretient le suspense, hein, Jean-Luc Roy, pour nous dire qu'il va encore se passer des choses pour les deux derniers Grands Prix de la saison. Merci beaucoup Jean-Luc, tu restes avec nous. Sachez, supporters de l'Olympique de Marseille, que dans 10 minutes, nous parlerons et nous reviendrons sur cette victoire à Lens 3-1. Mais restons un instant donc sur Max Verstappen, une suprématie en baisse tout de même cette saison, avec seulement 8 Grands Prix remportés. C'était 19 la saison dernière, 15 en 2022, 10 en 2021. Les polémiques chez Red Bull au début de la saison, vous vous en souvenez. La concurrence de plus en plus féroce tout au long de la saison. Max Verstappen a tout de même résisté à tout cette saison. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est son plus beau titre, ce quatrième, cette saison, Cyril Linette?
Non.
C'est non.
Ah, plutôt oui.
Plutôt oui, Jérôme Pinault.
Oui.
C'est oui aussi. Pascal Duprat.
Non.
Non, c'est plutôt non. J'ai deux noms, deux oui, ça commence bien, Sarah. Pourquoi oui?
Plutôt oui, parce que tu viens dégrainer les chiffres. Alors peut-être que du point de vue de Verstappen, c'est pas le plus beau titre, parce qu'il n'y a pas eu une suprématie pendant toute la saison, et qu'il y a eu effectivement des soucis sur la piste, mais aussi hors de la piste, avec certaines de ses sorties médiatiques qui l'ont un peu fragilisé. Son père qui s'est...
ses manœuvres, certaines de ses manœuvres.
De ses manœuvres. Son père qui s'est pris un peu la tête avec Chris Horner. Après, je pars pas, je vais signer ailleurs, oui, petite. Et puis tu viens de les donner. Finalement, c'est quasiment, alors, mis à part la première année où il est champion du monde et il bat Lewis Hamilton sur une dizaine
sur le
de points.
Grand Prix.
Exactement. Il y a eu cette incertitude jusqu'au bout. Donc, du point de vue des spectateurs, du point de vue du diffuseur, n'est-ce pas Cyril?
Oui.
Je pense que c'est un titre qui est intéressant.
Enfin, en tout cas, Sarah, ça vaut pas 2021.
Mais bien sûr que non.
Oui,
exactement.
Mais 2021, t'arrives. 2021,
ça vaut pas 2023 en termes de stats. Personne. Ça vaut pas 2023 en termes de stats.
Mais c'est pour ça que je dis, de son point de vue, c'est peut-être pas. Ouais. Non, mais d'un point de vue spectateur.
Point de vue spectateur, pour oui. rebondir, puisque Sarah m'a lancé la petite balle jaune. Pour moi, pardon, mais ça va faire hurler les grands spécialistes, mais le titre de 2021 est absolument inégalable. Parce que c'est face à Lewis Hamilton, l'un des plus grands champions de l'histoire de ce sport. Ça se joue toute l'année, au coude à coude, toute l'année, entre deux super champions. Pas le rookie, mais l'outsider est le favori. Les deux monoplaces ont des performances similaires. Ça se joue dans les derniers Grands Prix. Ça se joue au dernier tour. C'est entaché d'irrégularité. Mm-hmm. Même lui dit qu'il aurait pas dû gagner. Même là. Enfin, tout le monde s'est posé la question pendant des mois. Donc, je dis pas que
c'est pas le plus. Clarté, son nom,
mais oui,
2021,
mais d'accord. Mais il fait une saison quand même fabuleuse, et pour moi le premier en plus. Donc d'un point de vue pour Verstappen, parce que c'est son premier, pour l'intérêt de la F1 parce que c'est une saison incroyable, pour l'histoire et la mythologie autour de la Formule 1, le titre de 2021 pour moi est toujours le plus beau, même si, et peut-être encore plus parce qu'il a été entaché de cette décision finale.
Et aussi cette année, parce que c'était le premier pour lui.
Et c'est ce que j'ai dit.
Oui, mais tu as la naïveté quand c'est le premier. Enfin, je veux dire, t'as une forme de spontanéité et de naïveté quand tu vas décrocher ton premier titre à la grande surprise face aux grands favoris.
D'autant que personne
n'attendait. C'est quand même beaucoup plus difficile de confirmer.
Non, mais
après.
Ça, c'est c'est lui qui dira peut-être plus tard le titre qu'il a préféré. C'est probablement, il n'y a que lui qui sait.
Je suis pas sûr qu'il le sache. À lui, que ce soit pas le nôtre.
Parce que celui de l'année dernière, du coup, il a surdominé.
En général, c'est possible. Il aime surdominer.
Il aime ça. Mais pour le grand public, je trouve que 2021, c'est un titre absolument mythique. Encore plus parce qu'il est contestable. Mais c'est franchement le suspense de cette année. On y a quand même jamais cru. Enfin, je veux dire, Lando Norris.
Il a été bien entretenu quand même.
Lando Norris, il a pas les épaules.
Enfin, on sent pas.
Non, il a surtout pas la voiture.
Il a pas la voiture. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il ait complètement le mental non plus. Je suis pas sûr que ce soit.
Mais il y a une baisse de régime de Verstappen aussi.
Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit du côté de Norris qu'il faille chercher le grand concurrent pour les années qui viennent à Verstappen.
Ok, Jérôme Pinot et Pascal. Jérôme.
Non, mais moi, je réponds oui parce que ce que vient de dire Sarah, d'autant que ça rentre dans la pure histoire de la F1, ces batailles et puis ces guerres interne avec la communication, son père, les histoires de manœuvres sur la piste. On sent qu'il y a pas, il y a de l'inimitié avec certains pilotes. Et puis surtout, je pense que lui, ça va être un de ses plus beaux. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que tu viens de dire, Cyril, je pense que lui, il s'est fait peur. Il a tellement dominé le début de saison qu'il dit je vais dérouler tranquille. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Rappelez-vous qu'à un moment, alors évidemment que la FIA lui mettait le bâton dans les roues, mais il se posait la question s'il allait rester en F1.
En continuer
parce que je pense qu'il commençait à se lasser. Et là, bon, c'est petite piqûre de rappel. Je pense qu'il a bien bataillé. Il a dû prendre plaisir sur la fin. Mais et moi,
il montre sur ça ce nous a intéressé. Que c'est un champion.
Rappelle-toi, mon Pascal, quand on a fait des émissions il y a 6 mois de ça, on disait moi la F1, je regarde le résultat le lundi. Parce que même en tant que passionné, même les gens qui aiment ça, on s'attendait pas à autre chose qui domine.
Et c'était en début de saison.
Voilà, et on s'est remis à regarder parce que finalement la concurrence a fait que son père nous a bien aidé, lui aussi sur ses mains. Et finalement le personnage, on a fini par presque l'apprécier parce qu'il n'était plus hautain dans la domination sportive.
On n'ira pas jusque là.
Non, mais en tout cas dans la domination dans le domaine du sport, Pascal, évidemment.
En fait,
ça reste.
Je veux pas compléter ce qu'a dit Cyril, parce que ce qu'a dit Cyril, c'est net et sans bavure, c'est la stricte réalité. Le meilleur des grands prix, celui qui nous a offert le plus beau des suspens, qui était le premier de la première de ses victoires, c'est 2021. C'est incontestable. Celui-ci restera dans les mémoires. Ensuite, il y a 2023 avant 2024. Parce que 2023, il gagne 19 grands prix, il fait 86% de victoires sur la saison, et il en gagne 10 consécutivement. Donc ça, c'est incroyable. Bah moi, ça restera aussi dans les mémoires.
Il nous a pas marqué.
Par contre, cette année,
on s'est un peu ennuyé quand même l'année dernière.
Les autres se sont ennuyés. Mais bien sûr, il faut globaliser notre réflexion. Il y a le pilote, il y a Canal+, mais il y a aussi les esthètes, ceux qui aiment le sport, qui aiment les records. Et l'année dernière, il a battu des records qui seront probablement. J'anticipe, mais j'en sais rien. En fait, ce que je dis, c'est peut-être complètement con. Mais j'ai l'impression qu'il sera jamais battu, ce record de 86% de victoire sur toute une
Pascal,
saison.
Pascal, j'ai une petite question.
Une grande, si tu veux.
Non, alors une grande question. La performance, elle peut aussi arriver dans l'adversité. On est bien d'accord. Elle était où l'adversité l'année dernière? La performance, elle peut être aussi plus
contre,
grande.
Contre lui, contre les records l'année dernière. Records. Et cette année, je suis d'accord avec Jérôme.
Tu fais pas,
en début
tu
de saison,
pas tout seul sur un circuit.
D'accord, l'année dernière, il a roulé tout seul parce qu'il était meilleur que tout le monde. Et même meilleur que son partenaire, que son coéquipier,
parce que
ça aussi, vous le prenez pas en compte. Verstappen, c'est un grand pilote parce que vous pensez que c'est un peintre, son collègue.
Cette année, ce titre-là a aussi fini d'appuyer sur le fait que Verstappen est un génie du volant. Parce que l'an dernier, avec ses records, on finissait par dire, mais on met n'importe qui dans la Red Bull et ça va le faire. Là, cette année, il a bien géré son championnat. Il a été très calme à des moments où c'était chaud patate. Rappelez-vous encore le dernier Grand Prix au Brésil. Il peut tout perdre, dans des conditions pareilles. Il fait preuve de maîtrise. Et puis, il a redémontré, s'il fallait encore, qu'il est l'un des plus grands pilotes de l'histoire et qu'actuellement, c'est le plus fin au volant. Et ça, c'est important. Et je pense que dans la construction d'un titre, c'est aussi ça. C'est-à-dire, comment j'ai fait pour gagner et avec qui? On dit toujours, dis-moi qui a fait ton deuxième, qui a été deuxième, je te dirai si tu fais un beau vainqueur. Là, pour le coup, c'est pas forcément le second du championnat qui est magnifique. C'est comment, dans la deuxième partie, il a su calculer et gérer et et réussir à passer outre tout ce qui s'est passé dans cette saison pour aller remporter ce titre quand même à deux grands prix la fin.
On va écouter quand même Max Verstappen, c'était il y a quelques minutes sur Canal Plus lors du podium de ce Grand Prix de Las Vegas. Max Verstappen.
Oui, ça a été une longue saison jusqu'ici. On a commencé de manière incroyable. Ensuite, ça a été un peu plus calme. On a eu des moments difficiles. Mais en tant qu'équipe, on est resté soudés ensemble. On a essayé d'améliorer la voiture.
Je suis incroyablement fier de chacun dans l'équipe d'avoir travaillé pour moi
et d'être ici avec vous en tant que quatre fois champion du monde. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu espérer. Je me sens soulagé et aussi très fier.
Soulagé, fier. Ouais. On a essayé de rester soudé dans l'équipe. C'est dire si ça a été compliqué cette saison pour Max Verstappen.
Bah oui. Il le traduit très clairement. Et bah, le soulagement.
Période, c'était extrêmement tendu avec ses mécanos, avec sa direction.
Il n'a jamais autant remercié son avec équipe son que père, depuis deux grands prix.
C'était ce que j'allais demander à Jean-Luc.
Nous avons hâte en tout cas d'être en 2025 parce que vous savez ce qui va se passer en 2025. Hamilton par chez... Hamilton par chez Ferrari. Ouais. Et on a envie de voir cette bataille de nouveau, on l'espère, entre Hamilton et Verstappen. Jean-Luc Roy, juste un mot sur nos Français aujourd'hui. Malheureusement, Alpine est passé à côté de son Grand Prix alors que Pierre Gasly avait signé la troisième place. Hein.
Ah, il avait fait une qualif absolument formidable, oui, en se hissant sur la deuxième ligne, hein, c'était fantastique. On a compris tout de suite que malheureusement en course, il n'avait pas la performance, il a glissé dans le classement, et puis ça s'est terminé malheureusement par une casse mécanique, apparemment du côté du moteur. Hein, donc il a dû se retirer assez tôt, malheureusement, après le 26e tour. Donc c'est très dommage, évidemment, c'est une déception. Quant à Esteban Ocon, bah, lui, il partait de beaucoup plus loin. À un moment, il est passé dans les points fugitivement, le temps de s'arrêter au stand, et puis voilà... Si vous me permettez de dire un mot sur Verstappen, moi je souscris quand même sur le fait que je suis d'accord avec vous, le final de 2021 était absolument incroyable et contestable d'ailleurs dans tous les sens, hein, mais je trouve que c'est quand même une de ses plus belles saisons, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'avait pas la meilleure voiture. Pour moi, il avait la quatrième monoplace du plateau, je dis bien la quatrième. Ah, les McLaren sont au-dessus, les Mercedes aussi, on vient de le voir, et même les Ferrari. Donc être champion du monde pour la quatrième fois avec la quatrième voiture du plateau, c'est exceptionnel.
Merci beaucoup Jean-Luc Roy d'avoir été avec nous en direct ce matin, en direct des États-Unis. Rendez-vous au Qatar pour le 23e Grand Prix de la saison. Il y aura ensuite Abu Dhabi le 8 décembre prochain pour clore cette saison. Et puis vivement, je le disais, 2025. Voilà, Max Verstappen, champion du monde. C'était important d'en parler dans les grandes gueules du sport. Et c'était surtout important car vous avez pu vérifier, chers auditeurs, que Cyril Linette et Pascal Duprat peuvent être d'accord sur un débat. Mais ça va pas traîner, parce qu'on parle de l'Olympique de Marseille et du VAR dans quelques instants. Restez bien avec nous, supporters marseillais, supporters lensois, le 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Cyril Linette, Pascal Duprat, Jérôme Pinault. À partir de 10h, nous allons ouvrir le dossier Kylian Mbappé, les 100 premiers jours à Madrid. C'était cette semaine, l'occasion évidemment de faire le bilan. Il y aura un reportage en Espagne avec notre correspondant Edgar Grelot. On se posera cette question, est-ce qu'il s'est trompé de destination Kylian Mbappé? Ce sera donc dans quelques minutes, restez bien avec nous. Alors l'OM est reparti du bon pied en Ligue 1 après le naufrage à domicile face à Auxerre il y a deux semaines, c'était avant la trêve internationale. Les Marseillais se sont imposés donc 3-1 sur la pelouse de Lens. L'OM est troisième de Ligue 1 ce matin à 3 points de Monaco avant le choc dimanche soir prochain entre les deux équipes. Mais les hommes de Roberto De Zerbi se sont fait peur hier soir. Une séquence a fait basculer la rencontre. 85e minute, Lens pense égaliser à deux partout, mais l'arbitre de cette rencontre, Éric Watelier, est appelé par le VAR pour une faute lensoise au début de l'action. C'est finalement un coup franc très dangereux sifflé pour l'OM. Et là, bah ça change tout.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Il se passe des choses incroyables à Lens. On pensait que les Lensois, Jean, étaient revenus à deux partout, mais...
On va expliquer le scénario un petit peu. Alors le but est annulé pour les Lensois et ça va être un coup franc finalement pour les Marseillais. Il reste encore peu de temps, c'est pour Schwerg et c'est dedans. Oh, quel sénir pour les Lensois. Elle est magnifique cette frappe et elle va au fond du filet. Et ça fait 3-1 pour l'Olympique de Marseille.
Eh oui, en quelques secondes, enfin plutôt en quelques minutes parce que ça reste le VAR, hein, la rencontre passe de deux partout. À 3-1, Pierre Dréossi, le directeur général du RC Lens, est fâché.
J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on marque un but ou qu'on a une action litigieuse, j'ai l'impression qu'on a maintenant on a une peur bleue de la VAR. J'ai envie de dire stop aujourd'hui. Stop. Parce qu'on ne peut pas nous prendre des points comme ça et ne rien dire. Je ne suis pas énervé, mais je pense que ce soir, le score, c'est 2-2. À force, on se pose, nous, beaucoup de questions. Et ça se répète un peu trop.
Je pense ce soir que le score est de 2 partout. Vous avez entendu Pierre Drey aussi. Jérôme, tu vas pouvoir tranquillement débattre dans quelques instants. Juste vous dire qu'on écoutera également Will Steele, l'entraîneur de Lens, qui a parlé de l'arbitrage hier. La musique qui fout les jetons est cette question. Alors que dites-vous les GG après cette séquence ? Vive le VAR ou à bas le VAR ? Jérôme Pinault.
Vive le VAR sur hier, vive le VAR.
Ok, vive le VAR. Cyril Linette.
À bas le VAR.
À bas le VAR. Pascal Duprat.
Vive le VAR.
Vive le VAR.
Vive le vent, vive le VAR.
Ouais. Ok, on est le 24 novembre, c'est dans ce mois. Voilà. Tu as bien raison de le rappeler. T'étais fâché là. Je t'ai senti. T'as pas aimé les propos de Pierre Drey aussi.
Non, non, j'ai pas aimé parce que directeur général du club, poste assez haut placé, tu prends un peu de recul, tu regardes les images. Et si t'es un peu honnête, la faute elle y est hier. C'est l'arbitre qui est mauvais hier. C'est l'arbitre qui voit pas l'action sous ses yeux. Elle est flagrante. Il doit siffler. Le problème, c'est que la VAR est là pourquoi ? Pour aider des gens en difficulté. Parce qu'il a été en difficulté hier. Et quand Pierre Drey aussi prend la parole hier, il doit avoir tous les éléments. S'il revoit les images ce matin, il peut pas crier au scandale. Le score, c'est pas 3-2, c'est pas 2-2, c'est 3-1. Parce que la faute, elle y est. Après, il peut aussi mettre en cause son gardien sur le positionnement, sur le coup franc. Parce qu'il y est plus non plus, le gardien. Mais il peut pas dire que c'est à cause de l'arbitre. Pas là. Pas sur ce coup-là. À cause de la VAR. À faute de l'arbitre, oui. Et si la VAR n'est pas là hier, ou le VAR, il y a scandale contre les Marseillais. Parce que ce but, il ne doit jamais être accordé
du côté lensois. Et donc, c'est eux qui auraient râlé après le match contre l'arbitre.
Ah, ils auraient. Après l'arbitre, mais pas. Mais là,
contre l'arbitre.
Donc, pour le coup,
contre le VAR.
Ah, ben non. Ils auraient râlé de toute manière.
Si l'arbitre ne siffle pas la faute. Non, mais. Si l'arbitre ne siffle pas la faute, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il a un soutien. Il a une assistance qui est un progrès mais phénoménal pour des arbitres.
Qu'ils sont médiocres, oui,
donc,
il faut ça. Ça c'est
si
sûr.
Le VAR, non, mais c'est un autre débat, ça. On est en train de parler du VAR.
De l'outil.
On n'est pas en train de parler des attitudes des arbitres en France. Si tu veux, on en parle. Parce que des matchs de foot, j'en regarde beaucoup. Et les attitudes des arbitres en France, je ne les vois jamais ailleurs. Ils sont crispants, les arbitres en France, parce qu'ils se prennent pour des autres. Tout simplement, une caste dans la caste. Ça, c'est un problème. Mais par contre, le VAR, c'est une avancée phénoménale. Et Cyril, toi qui es pondéré, je vais écouter tes arguments avant de t'en balancer quelques-uns. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être contre cette avancée.
Non, je suis pas contre à 100%. Je trouve qu'on l'utilise trop et je trouve que ça ne devrait pas servir à ce point pour interpréter, parce que c'est forcément toujours de l'interprétation, les décisions arbitrales sur les fautes. Je trouve que d'abord c'est pas uniforme, y a pas de cohérence, et surtout moi ce qui me gêne avec ce dispositif depuis que ça existe, qui a son utilité pour un ballon a-t-il franchi la ligne ou pas, des choses comme ça, c'est que
pour
ça tue pour le hors-jeu, mais c'est que ça tue l'émotion, c'est-à-dire que quand un but est marqué pour son équipe, on sait jamais s'il va être validé ou pas. Mais on est obligé d'attendre 3 minutes, les joueurs, le stade,
non, mais
personne,
Cyril,
dans le stade, tout le monde,
Cyril,
attend
quand la tu regardes un match de rugby. Est-ce que tu as l'impression, quand tu regardes un match de rugby, je regarde France contre Argentine, je fais le plein d'émotions. Pour autant, il y a des essais qui sont marqués et qui sont annulés parce qu'il y a une faute en amont. Est-ce que ça te coupe de l'émotion? Pourquoi ça ne couperait de l'émotion? Pourquoi ça ne couperait de l'émotion qu'au foot? Moi, j'y vois un bienfait. Tu as déjà joué au foot chez les professionnels, Cyril? C'est très difficile. C'est très coûteux, énergétiquement. Le fait que de temps en temps, il s'arrête pour que les arbitres vérifient. Ça donne un meilleur niveau au foot parce qu'ils ont le temps de récupérer. Il faut voir les actions qui permettent le VAR permet une meilleure correction des erreurs des arbitres. Mais comme ce sont des hommes qui jugent in fine derrière les écrans, eh ben les hommes font des erreurs, c'est connu.
Mais là,
l'erreur
hier,
est humaine.
Est
mais là, on les limite. Et en plus, hier, c'en est pas une.
Ok. Donc,
Moi, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si j'aime beaucoup le rugby, mais si le foot m'a toujours procuré plus d'émotions que le rugby, c'est justement pour ça, parce qu'il y avait à la fois moins d'arrêts, moins d'attentes, de décisions très compliquées, et un peu plus d'injustice. De toute façon, il y a toujours des injustices aujourd'hui. Donc, je ne suis pas totalement contre le progrès, Pascal. Je suis contre l'utilisation qui en est faite, et je pense qu'à un moment donné, faudra regarder, par exemple, les Anglais, qui sont toujours raisonnables, comment le VAR va évoluer avec le temps dans le championnat d'Angleterre. Je pense qu'à un moment donné, on va redescendre un petit peu, parce qu'il faut pas oublier.
Utilisation par les Anglais, parce qu'ils sont plus humbles.
Voilà, on est d'accord. Et je pense qu'ils y reviendront. Moi, je connais aussi effectivement l'envers du décor. Ce qui me gêne, c'est de donner la main de manière assez inconsidérée à des gens dans un car. Alors, je parle pas des arbitres, je parle de ceux qui calent les ralentis. Enfin, une faute est jugée aujourd'hui selon la vitesse du ralenti, l'angle de la caméra, le moment où elle va être calée par des réalisateurs. C'est donner un pouvoir, de mon point de vue, totalement surdimensionné à des gens qui font de la télévision par rapport à des gens qui sont censés arbitrer. Et ça n'a rien réglé.
Tu reviens sur le sujet, Zidane.
Comme ils reviennent en amont, Cyril, t'as besoin des techniciens pour revenir en amont. Mais ça ne change rien à l'analyse des arbitres qui sont dans le car. Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est que en fait, on a l'impression, ça me fait penser à la justice en France, tout simplement. On a l'impression qu'ils sont là et ils sont bien là, omniprésents. Ils n'acceptent rien. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'anciens entraîneurs ou d'anciens joueurs pour juger si le joueur, triche, amplifie le geste, pour juger s'il y a pénalty ou non, s'il y a faute ou non dans la surface? Pourquoi ils ne pensent pas à prendre des anciens joueurs ou des entraîneurs? Ils pensent qu'on ne connaît pas, nous, le football, qu'on ne connaît pas les réflexes des joueurs? Pourquoi ils ne profitent pas de cet ajout-là? Non, c'est toujours eux, que
ils ont
toujours,
fait un pas dans le sens avec Mickaël Andreau, déjà. Ils ont fait Mika
et tout. C'est pas mal, mais c'est un petit pas. Voilà, un petit pas.
Mais moi, je suis pas contre le principe, mais je suis contre l'usage surdimensionné qui en est fait.
Alors, on peut pas parler. Pascal m'a dit c'est pas le sujet, mais c'est un peu le sujet. Est-ce que tu penses pas, hier par exemple, on parle d'utilisation. Il a utilisé le VAR pourquoi? Parce qu'il est pas bon.
Oui, non, mais
parce que hier c'est flagrant. Un arbitre de très haut niveau hier, et comme par hasard, et moi j'ai soulevé ça cette semaine, comme par hasard, ça arrive toujours en fin de match.
Oui, mais
souvent en fin de match, ça veut dire que l'arbitre lui-même est plus trop physiquement frais, parce que hier, avec la clairvoyance, ok, l'arbitre fait deux allers-retours, mais c'est son métier, mec. Il passe son temps à se préparer. Hier, il voit pas la faute sous ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il oxy.
Mais donc, je dis, moi,
j'appelle les
ça.
Copains dans le car.
On ne peut pas sanctionner pour ça, je suis désolé.
Mais est-ce qu'il ne la voit pas, ou est-ce qu'il estime?
Il faut aussi dire que leur rôle est très délicat. Ouais. Mais ils l'ont choisi.
S'il ne la voit pas là, d'accord, il faut lui acheter
ils
un
labrador. Hein. Il peut se trouver qu'il ne la voit pas. Okay.
Pas là, moi, pas hier, Pascal, c'est sous ses yeux. Hier, il est dans le cœur. Il a presque gêné la
question.
La preuve, puisqu'il l'a oublié. Donc ça peut arriver. Donc il était peut-être dans un moins bon jour où il a oublié cette faute-là.
Est-ce qu'il l'oublie ou est-ce qu'il estime qu'il y a, je veux dire, dans l'espace d'une fraction de seconde, il estime qu'il n'y a pas totalement faute, donc il laisse le jeu, puisque un arbitre au départ, je pense que avant tout, c'est de laisser le jeu se dérouler, et donc c'est après qu'il revient. Donc, est-ce que c'est
comme
après
comme il a fait tout le match d'ailleurs, je dis pas qu'il s'est pas trompé
et
sur
donc,
cette action-là, hein, mais comme il a fait
le ballon
tout le match, il a laissé jouer.
Dans les cages,
il laisse beaucoup jouer. C'est un arbitre qui laisse beaucoup jouer. Voilà.
Et Lens, c'est une équipe qui met beaucoup d'impact.
Sauf que toute la soirée, il a laissé jouer.
Si le VAR n'est pas là, on juge l'arbitre sur son match. On dit cet arbitre-là, moi, on me dit, il laisse beaucoup jouer, mais parce qu'il s'appuie sur un outil. Si tu lui enlèves l'outil, c'est plus le même arbitre. Et il y a beaucoup d'arbitres qui s'appuient sur l'outil.
Sur l'outil.
Oui. Et est-ce que c'est mieux pour notre football? Je pense que oui, parce que le niveau de l'arbitrage en France, c'est un large débat. Il n'est pas à la hauteur.
J'ai besoin de poser une question à Cyril.
Très bien, dans quelques instants, Pascal, on va marquer une...
Il est remonté, Pascal, là, non?
C'est ça qu'on aime.
Ça va, je trouve très calme.
De toute façon, un petit sujet VAR, tout de suite, boum, arbitre VAR.
La série des arbitres, vous ne voulez pas appeler Pascal parce qu'il
tout va bien.
Il veut vous aider, vraiment.
Ça fait plus d'un an que je ne peste pas après les arbitres.
C'est vrai. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas croisé un.
Jérôme. Alors tu vois, on va régler ça.
Jérôme. Non, Jérôme, t'es excellent, bravo. T'as raison, j'en ai pas croisé.
On revient dans quelques instants pour de nouveau parler, évidemment, de cette situation de jeu hier lors de Marseille-Lens. Supporter marseillais, supporter lensois, n'hésitez pas à composer le 32-16. Et puis, elle est restée sage. Hein. Vous êtes affrontés. Sarah Pitkowski nous donnera également son avis. Puis vous entendrez Will Steele, qui vous allez voir parle de cette séquence, mais il avance aussi autre chose. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46 de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, toujours avec Sarah Pitkowski, Cyril Linette, Pascal Duprat, Jérôme Pinault. À partir de 10h, on ouvre le dossier Mbappé des 100 jours à Madrid. L'occasion pour nous de tirer un premier bilan. Mais restons un instant sur cette séquence qui a tout changé lors de Lens Marseille, 85e minute. Lens avait égalisé à 2-2 finalement. Le VAR s'en est mêlé. Ici fut une faute pour l'Olympique de Marseille, coup franc, ça fait but derrière, ça fait donc 3-1. On vient d'en débattre depuis quelques minutes. Maintenant, il y a Pierre, supporter de l'OM, qui nous appelle. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre.
Alors, ce matin, quand j'ai entendu que vous allez faire un débat sur cet avare, j'ai failli tomber dans les pommes. Incroyable, incroyable. Pour une fois qu'il y a une décision qui en va en notre faveur, c'est un scandale. C'est un scandale. Ah oui, parce qu'il faut aider l'OM, bien sûr, nous on est aidés. Monsieur Drossi et monsieur Ruiz, là, combien de matchs de suspension vous allez avoir pour avoir critiqué l'arbitre, hein? Et c'est pas fini. Tous les fautes qu'il a pas sifflé l'arbitre, tous les fautes qu'il y avait des cartons et à la limite rouge, il siffle pas. Non, monsieur, il y a une cabale contre l'OM et bref.
Bon, ouais, j'ai l'impression qu'on a bien réveillé Pierre. Bah, on rigole sans se moquer, Pierre. On rigole parce que justement, le coup de gueule.
Non,
Pierre.
Je vous dis la vérité, moi.
Mais votre coup de gueule est sympa.
Vous ne pouvez pas savoir comment on subit. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous, les supporters, on subit. Qu'est-ce qu'on subit
à chaque équipe.
Pour une fois que c'est pour nous, aïe, on fait un débat. Mais la VAR, de quoi je me mêle, toi? De quoi? Va manger le hamburger comme la pub. Vas-y,
très bien.
Mange un hamburger et frotte.
Je vois pas le rapport avec la choucroute, mais on peut parler d'hamburger sans problème.
La choucroute.
Merci Pierre. Pierre,
on voit que ça a tout réglé. Hein. C'est
beaucoup plus calme depuis Calvar. Tout le monde est pour détendre calme. Pierre, je propose d'écouter Will Steele maintenant, qui est revenu sur cette action. Vous allez voir, lui, il se plaint un petit peu de l'attitude des Marseillais. On l'écoute.
À partir du moment où l'arbitre est à 1m50, 2m de la phase et qu'il décide, lui, de ne pas siffler faute, ça me paraît compliqué, mais on peut parler de tout ce qui se passe avant parce que on peut les énumérer, mais ça fait beaucoup de décisions qui sont contestables. Faut pas chercher midi à 14h. On me raconte qu'à la mi-temps, il y a un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l'arbitre.
Ok, vous en pensez quoi, Sarah?
C'est ce qu'on entend chaque week-end. C'est-à-dire que quand c'est pas sur le terrain, on va dire que les arbitres subissent des pressions. En fait, si on prend juste un petit peu de hauteur, à partir du moment où on a mis le VAR, c'est-à-dire une aide technologique à un corps arbitral, en fait, on n'en accepte pas les augures véritablement. Donc, qu'on mette le VAR, qu'on mette de l'électronique, pas de l'électronique, en fait, au final, on remet toujours en question une interprétation, parce que les images, on les a. En fait, est-ce qu'on accepte l'interprétation électronique, c'est-à-dire d'avoir une preuve par l'image de quelque chose, mais il restera toujours une interprétation humaine derrière.
Non. Pour les images comme le hors-jeu ou la Golden Line, là c'est incontestable.
Mais la Golden Line technologie, vous l'aviez avant.
Il n'y a pas de place à l'interprétation. Pour le hors-jeu, on ne l'avait pas. Il n'y a pas de place à l'interprétation.
Mais là, il y a de l'interprétation.
Quelquefois, ça fait mal parce qu'il y a hors-jeu de 2 cm, mais il y a hors-jeu. Donc c'est incontestable. Par contre, là où t'as beau avoir l'ajout du VAR.
T'es content quand un but est refusé pour un hors-jeu de 2 cm, Pascal, sachant que c'est calé à la micro-image et qu'en fait, la décision, elle est prise par l'opérateur.
Mais à ce moment-là,
tu vas dans un quart avec moi, je vais te le montrer.
Mais tu dois en accepter les règles.
Mais non, tu peux décaler. Tu décales.
Moi, j'avais cette question à te poser,
Cyril.
Est-ce que tu penses, Cyril, qu'en 86, au Mexique, Maradona, il a fait du bien au football? Quand son but, en quart de finale, contre l'Angleterre, a été marqué de la main. Est-ce que tu penses que ça fait du bien au foot?
Oui.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Ça fait du bien à la mythologie.
Écoute-moi, on est certainement partagé sur le truc-là, parce que moi je pense que les Anglais et tout le peuple anglais,
mais moi je suis pas anglais.
Très content du truc, et ils auraient bien voulu qu'il y ait l'électronique pour juger à défaut de son
mais tu sais quoi, ils ont marqué en 66 un but qui est probablement pas franchi la ligne, qui leur a offert la Coupe du Monde.
C'est donc un progrès.
Ils n'auraient jamais été champions du monde.
Mais c'est donc un
progrès. C'est le foot, ça.
C'est un progrès.
C'est un progrès.
Et pour revenir au problème d'hier, je suis assez d'accord avec le supporter marseillais, oui, mais pas Bruyère, de la même manière. Oui. Il y a faute, point barre. Oui. Le rôle des personnes qui sont dans le bus, c'est de revenir en amont.
Je suis d'accord. Il y a faute, point barre. Et ça, personne n'a dit qu'il n'y avait pas faute dans ce studio. On ne débat pas de, on débat juste de la séquence. Et ça perturbe forcément le match. Et quand on voit un scénario comme ça à 2-2, 3-1 en quelques secondes, forcément, on peut s'interpeller sur
le. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il y a beaucoup de. Et on en parlera peut-être plus tard. Il y a de plus en plus de mauvaise foi, d'agressivité dans les déclarations des dirigeants, des entraîneurs. Ce que je comprends. Hein,
il y en a plus.
Plus qu'avant. Il y en a beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de pression. Et les déclarations aujourd'hui, c'est plus on a été victime d'une injustice, c'est en gros, hein, si j'écoute bien, parce qu'il y en a plein qui ont parlé ce week-end, c'est en gros l'arbitre est corrompu. C'est quand même de plus
en plus suggéré.
Mais
tous les clubs le disent.
Mais ça, je pense que c'est la bascule de la VAR. C'est-à-dire qu'on est passé à des déclarations d'après-match plutôt sur. On n'a pas de chance, c'est injuste, l'arbitre a pas
on
vu.
On nous a volé,
on nous a volé parce qu'en plus il y a des images dans le camion. Ouais, ouais. Donc je trouve que vis-à-vis des supporters, on en parlera peut-être après. Il y a quand même en ce moment des incidents dans tous les stades de Ligue 1, de Ligue 2, partout. Je pense que si à un moment donné on ne responsabilise pas un peu tout le monde sur les déclarations d'après-match, dont la VAR sont en partie est en partie à mon avis responsable, ça va mal finir.
Voilà. Bah justement, je prends au bon ce que tu viens de dire, Cyril, parce qu'hier en Ligue 2, Maxime Lopez.
Oui.
Joueur du Paris FC, le Paris FC joue à domicile face à Annecy, 0-0, et l'arbitrage ne lui a pas du tout plu. Alors lui, en plus, il réclame le VAR en Ligue 2, mais vous allez voir ce qu'il raconte.
Maintenant, après, j'aimerais bien qu'on ouvre un peu le dossier arbitre. Ça, je commence à en avoir un peu marre. Tous les week-ends en Ligue 1, c'est la même chose. Tous les week-ends en Ligue 2, c'est la même chose. Ce soir, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il fait pour pas mettre rouge en première mi-temps. Je cherche pas des excuses. Attention, on mérite pas de gagner peut-être ce soir, mais au bout d'un moment, on commence à en avoir plein le cul de se faire avoir par les arbitres. Pour moi, il y a carton rouge en première. Il y a pénalty sur Aligori. Il nous met carton jaune. Et le week-end, ils se suivent, mais ils se ressemblent. Tous les arbitres, au final, même ceux qui sont en Ligue 1, ils viennent tous les week-ends, ils sont rétrogradés en Ligue 2. On se demande pourquoi. Pourquoi on met pas la VAR en Ligue 2? C'est simple. En Serie A, en Italie, ça fait 10 ans qu'elle y est. En Allemagne, c'est pareil. De partout, elle y est. Pourquoi on la met pas en Ligue 2? Championnat le plus délaissé du monde, je crois. Voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Sinon, on a des objectifs. On est ambitieux, mais là, ça y est, c'est trop.
Ça va parfaitement avec ce que tu viens de dire, Cyril.
Ouais, alors, il réclame la VAR tout en sachant bien que finalement, ça ne va pas tout résoudre. Mais là où je comprends Maxime Lopez, c'est qu'il faut pas oublier que la VAR avait été prévue d'être installée en Ligue 2 en début de saison et qu'elle a été supprimée pour faire des économies à la suite du nouveau train de vie de la LFP et de la négociation.
C'est bizarre. T'en connais un sur le sujet ou pas?
Non, c'est factuel. C'est factuel. Ça fait partie des
économies. Tu l'as mis quand même. Cyril, ça va pas s'arranger alors.
Il fallait que tu aies des économies possibles. Ils ont choisi celle-ci.
Frédéric nous appelle. Arbitre Frédéric, il veut participer à notre débat. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien?
On va voir s'il n'y a pas trop de fritures sur la ligne, Frédéric. Tu veux rajouter quoi sur ce débat, Frédéric, toi qui es arbitre?
Alors, moi, je suis président de la commission départementale des arbitres du Morbihan, donc je rejoins Cyril Lillat, qui dit qu'il n'y a pas de VAR en Ligue 2, faute de silence. Je dirais aussi que la VAR, à partir du moment où, comme l'a dit Sarah, on la met en place au niveau de la Ligue 1, il faut en accepter les conséquences et il faut accepter qu'à un moment donné, on y fasse appel quand il y a un doute et le doute ne profite pas aux équipes. Donc à partir de là, il faut accepter ces échecs. Et puis je dirais que comme ça a été dit tout à l'heure, quand j'entends les équipes réagir et Will Steele réagir après l'utilisation de la VAR, il n'est pas du tout sur les éléments factuels, il est plutôt sur des effets de frustration et des matchs qui ont eu lieu les week-ends précédents, du présent match, où il considère qu'il y a eu une situation à tel moment, à tel instant, dans les couloirs, etc. Mais il n'est pas du tout sur les faits de match. Donc, à partir du moment où
Pierre Drey aussi dit quand même, Frédéric, pour moi, il y a 2-2 dans ce match. Donc il analyse quand même le fait de match. Il n'est pas juste dans la frustration. Pour lui, il y a 2-2.
S'il revoit les images aujourd'hui, oui, il va revenir sur sa décision.
Jérôme Pinault, il va aussi parler de son gardien.
Mais
il ne le fera pas. Et les dirigeants lyonnais, on a même entendu hier après le match à Reims, tout le monde le fait en ce moment et de plus en plus.
Mais justement, Cyril, parce que l'OM l'a fait, vous vous souvenez, la mi-temps face à Lyon. Et quelque part, Will Steele dit, regardez, ils mettent la pression aux arbitres à la pause. Finalement, en deuxième période, période, ça se voit sur le terrain.
Campos,
arrête de parler de Marseille, autrement on rappelle Pierre.
Oui, c'est vrai, il est toujours
là. Luis Campos l'a fait aussi en intervenant à la mi-temps.
Bien sûr, est-ce que ça rentre dans leur communication pour plus se faire avoir sur l'autre match comme ils disent?
Évidemment,
c'est une stratégie de communication, oui, bien sûr. Mais il y a deux choses à mettre en place déjà. Moi, dans mon sport, on est accrédité. Tu es sur le paddock avec les coureurs, mais tu sais pourquoi t'es là. Là, il y a tellement de monde dans le couloir. Est-ce que tous les gens qui sont là ont un rôle et ont besoin d'être là? Je pense pas. La deuxième chose, c'est que quand on revient sur le débat du l'arbitrage et le VAR amplifie ces choses-là. Frédéric est là avec nous. Il est président de la Ligue des, enfin, dans le Morbihan. Donc, il sait tous les week-ends, mais le VAR ou pas le VAR, et quel que soit le niveau, on nous parle des enjeux, etc. Mais tous les week-ends, pour aller sur les stades de football, pour jouer au football, même en loisir le vendredi soir, le débat est toujours le même. C'est toujours, en cas de défaite et de frustration, la faute de l'arbitre, quel que soit le niveau. Il y a eu pas longtemps encore un match amateur chez moi, le dirigeant du club, l'entraîneur, tient un blog et le lundi, il te fait 4 pages sur l'arbitre du match. C'est culturel en France.
Et en France, on est passé, c'est vrai, en France, là où je suis d'accord avec Pascal, c'est qu'ailleurs, on est un peu plus, peut-être un peu plus mature. En France, on est passé du sentiment d'injustice au soupçon de corruption.
Oui.
Et ça, c'est gravissime. Parce que ça va partout. Merci. Les supporters.
Parce que les arbitres en France, malheureusement, ils sont pas naturels. Un arbitre, tu le reconnais quand il est en costume. Normalement, on devrait le reconnaître quand il est en tenue. Mais il s'invente des marches, un arbitre en France. Il s'invente une gestuelle, un arbitre en France. C'est tout.
Bon, bah on reviendra.
Donc ça crispe.
On reviendra, compris, on reviendra sur ce débat. C'est passionnant, en tout cas, de vous écouter les GG. Je remercie Pierre et Frédéric d'avoir participé également à ce débat sur cette séquence donc entre Lens et Marseille. On se retrouve dans quelques instants pour les 100 jours de Mbappé à Madrid. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.